Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, l'Île-de-France Bleue RCFM, Ajaccio en Corse, et en direct de la capitale tunisienne, Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale. Bonjour Mayada.
Bonjour Thomas, bonjour la Méditerranée et bonjour le printemps qui s'annonce, le printemps qui chante, comme dirait Claude François.
Absolument. Et Mayada, on va entrer dans le vif du sujet, tu nous présentes le sommaire de ce nouveau numéro de Cantara.
Alors notre voyage commence cette semaine par le Maroc, où il sera question du tourisme durable. Nadia Boulkhotout nous propose un reportage sur ce tourisme qui favorise la compréhension entre tous les peuples et qui contribue à renforcer la paix dans le monde. La célébration de la francophonie amène à Madrid des écrivains, penseurs, artistes et intellectuels de tout horizon. Iman Wanzal a rencontré l'écrivain, dramaturge et journaliste franco-roumain Matei Vizniec. Pierre lui a laissé Sandrine nous parlera du programme européen Proterina, ce programme qui a été conçu pour une meilleure gestion des risques et une meilleure protection des populations contre les inondations. Il concerne des régions italiennes et françaises. Quant à moi, j'ai choisi de vous parler cette semaine des Italiens de Tunisie. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Vous saurez un peu plus sur cette belle histoire tout à l'heure. Et notre voyage se terminera cette semaine en Égypte. Dina Abdelmehid nous parlera de l'utilisation de l'application WhatsApp en Égypte.
C'est la reine des nouvelles technologies, notre amie Dina.
Alors, du WhatsApp.
Complètement. Alors, on vous le rappelle chaque semaine, mais c'est important de le dire que Cantara est une riche coopération avec Algéchaîne 3, Linda Boidma, France Bleu RCFM, Pierre Mar et Pierre-Louis Alessandri et Thomas Brunet, chaîne Inter Rabat, Natira Belroutout et Mohamed Chafoui, Radio Le Caire, Dina Abdelmehid, Radio Estelor d'Espagne, Iman Ouanzar, et Radio Tunis, chaîne internationale, vous l'entendez, Mayada Sili. Et Mayada, notre première chanson est marocaine.
Anna Marak est le titre de cette chanson Je suis avec toi, une chanson de Saïd Mousker.
Nous étions au Maroc avec la chanson que nous a choisie Nadira et nous y restons, Mayada.
Oui, l'année 2017 a été proclamée par les Nations Unies année internationale du tourisme durable pour le développement. L'objectif est de favoriser la compréhension entre tous les peuples, de faire mieux connaître le riche héritage des différentes civilisations et de faire davantage apprécier les valeurs inhérentes aux différentes cultures, contribuant ainsi à renforcer la paix dans le monde. On écoute le reportage de Nadira Belkhoutout.
Abdelatif Zouitzen, vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme. C'est plus d'un milliard de touristes internationaux qui voyagent et qui sillonnent le monde. Qu'est-ce que le tourisme durable leur offre de particulier par rapport aux autres produits du tourisme?
Le tourisme durable, c'est avant tout quelque chose qui est bâti sur le respect de l'environnement, notamment tout ce qui a trait également aux énergies renouvelables, également au respect de l'agriculture par rapport aux techniques utilisées, on le voit, le plan vert a été un formidable catalyseur. Le tourisme durable, c'est les actes quotidiens de chacun dans sa vie, pour justement faire en sorte que la propreté soit au rendez-vous. Chaque acte doit être respectueux justement de l'environnement. Donc c'est quelque chose aujourd'hui de fondamental, et on le voit, il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation qui ont été faites, notamment pour la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et par d'autres départements. Le tourisme durable, c'est une forme de qualité de vie, c'est également le respect de notre patrimoine, matériel et immatériel.
Madame Elicia Grandcourt, vous êtes la directrice du programme Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. Quelle est la valeur ajoutée de la proclamation de l'année 2017, année internationale du tourisme ?
Pendant le développement de l'année du tourisme durable, dans la célébration, on encourage les pays membres à organiser des activités autour de ce thème, mais en même temps, nous à l'OMT, on a comme agence d'implémentation, on est là pour accompagner notre pays membre dans leur démarche lorsqu'ils travaillent sur le développement du tourisme durable.
C'est un secteur générateur de revenus, notamment pour les couches sociales à revenus modestes, mais il reste encore un grand travail de sensibilisation, que ce soit des décideurs et du grand public, à l'échelle nationale et au niveau du continent. Et justement, au niveau du continent, il y a une charte. Est-ce qu'elle permet de fédérer le travail et l'action autour du tourisme durable ?
Pour nous, le Maroc est un de nos pays membres très importants. Aujourd'hui, on les salue pour les travaux qu'ils font, surtout sur le développement du tourisme durable. On reconnaît aussi toute leur participation dans nos activités clés, comme dans la consommation des productions consumers behavior, pardon, et en même temps d'être un de nos partenaires officiels pour l'année internationale du tourisme durable. Et aussi bien que le Maroc a été l'initiateur de la charte africaine, qu'aujourd'hui on a 25 pays membres qui ont déjà adhéré à cette charte, et on prévoit que d'autres pays membres vont joindre à cela.
Aurélia Oulsi, vous représentez la Côte d'Ivoire. Est-ce que votre pays adhère à cette charte africaine, surtout quand on sait que les sites dédiés au tourisme durable se ressemblent en Afrique?
Que la Côte d'Ivoire s'est décidée à officialiser l'acceptation du passage de la caravane du tourisme marocain durant cette année, donc qui se tiendra à Abidjan et dans des villes de Côte d'Ivoire en 2017. Voilà, nous faisons partie des pays participants.
Ce reportage se termine avec la Côte d'Ivoire. Donc on sent qu'après, à travers cette charte africaine, que tout le monde maintenant est concerné par ce développement durable et par ce tourisme durable. C'est vrai qu'il faut mettre en valeur les savoir-faire de nos régions, de nos pays, parce qu'il y a derrière tout ça toute une culture, tout un patrimoine qu'il faut préserver. Et puis c'est vrai que de faire de la qualité, c'est toujours bien créateur d'emplois, créateur de qualité, créateur de richesse. Et plus on présentera des produits, parce que je pense pour l'artisanat par exemple, qui sont de bonne qualité, riches et qui viennent de très très loin, et plus on aura de touristes intéressés.
Absolument, c'est vrai, le tourisme durable, on en a tous besoin, on le demande, on le revendique aujourd'hui, et c'est vrai, comme tu le dis, les pays africains, mais surtout les pays touristiques, que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, ils prennent aujourd'hui conscience de l'importance de développer effectivement d'autres produits, enfin des produits touristiques durables, et je pense que c'est bien que les Nations Unies aient fait de cette année 2017 une année internationale pour le tourisme durable et pour le développement. Espérons que ça va s'accompagner avec de vrais efforts et de vrais projets pour le développement du tourisme durable. Et ce qui vient aujourd'hui, c'est que cette prise de conscience, je crois qu'elle se fait à tous les niveaux. Par exemple, en Tunisie, qui est un pays quand même touristique depuis plusieurs décennies, on a pris conscience que c'est une destination hôtelière beaucoup plus que touristique. Et donc, de là est née la nécessité, effectivement, de développer d'autres produits qui s'appuient sur la culture, sur le patrimoine, et puis des produits produits qui sont respectueux aussi des populations, du patrimoine, de l'environnement. Donc je trouve que c'est bien cette charte africaine et c'est bien cette année internationale.
Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux finalement. Tout le monde s'est égaré et maintenant on revient un peu à ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est un peu le savoir-faire, tout ce qui représente la culture, le patrimoine d'un pays, d'une région,
l'homme,
d'une ville.
Général.
Voilà, et l'homme autour de l'homme et autour de la nature. Très bien. Bien, après ce premier reportage, on va partir en Espagne avec le groupe Jarabe de Palo qui revient avec un nouveau disque, un nouveau CD, juste lorsqu'on apprend que son auteur-compositeur, Pau Donés, dérangé malheureusement par la maladie. La chanson que nous proposons aujourd'hui et que nous propose Imane Ouazar s'intitule Humo, ça veut dire la fumée, un véritable testament de Pau Donés.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Et c'était la chanson que nous a choisie Imane Ouazar, Fumée ou Humo de Pau. On reste en Espagne, Thomas.
On reste en Espagne, on va même plus loin parce qu'on Imane nous demande un peu de réflexion. C'est la célébration de la francophonie qui a amené à Madrid des écrivains, des penseurs, des artistes, des intellectuels de tous horizons. Et Imane Ouazar a rencontré l'écrivain, dramaturge et journaliste franco-roumain Matei Visniec. Il est question dans cet entretien de philosophie et de la philosophie de l'absurde et de la tyrannie du politiquement correct. On écoute l'interview d'Imane Ouazar.
C'est vrai qu'au début, lors des premières années, quand j'ai commencé à écrire directement en français, j'ai beaucoup écrit sur mes angoisses roumaines, sur les sujets qui me préoccupaient beaucoup, sur le lavage de cerveau à l'époque totalitaire, mais aussi j'ai découvert le lavage de cerveau dans les grands pays occidentaux et démocratiques. J'écris beaucoup sur les rapports perfides entre l'homme et le pouvoir, la manipulation de l'individu, le changement de rôle parfois entre le bourreau et la victime. Donc je voulais d'une certaine manière, en langue française, par mes pièces, démanteler le mécanisme totalitaire. Et surtout, je voulais présenter d'une certaine manière un public français le fait que l'absurde a eu comme dimension aussi l'histoire, pas seulement la littérature. J'ai beaucoup aimé le théâtre de l'absurde. Je me suis nourri du théâtre de l'absurde de Ionesco et de Beckett. Mais je connaissais l'absurde déjà comme dimension historique. Avant que ça ne devienne littérature, l'absurde a été l'histoire. J'ai vécu l'absurde tous les jours, mon quotidien depuis que je suis né en Roumanie jusqu'au moment où je quittais la Roumanie en 87. C'était un enchaînement de gestes et de paroles et d'attitudes absurdes. Voilà ce que j'ai voulu transmettre dans mes premières pièces que j'ai écrites en français. Je suis moi aussi journaliste à Radio France Internationale. Donc les malheurs du monde, ça me touche beaucoup. Mais très souvent, les sujets passent du journaliste que je suis à l'écrivain que je suis.
Et est-ce que vous pensez que finalement, nous ne sommes pas installés dans l'absurde ces dernières années ? L'absurde revient en force. On a l'impression que Caligula, vous citiez Camus, Caligula est de retour.
En ce moment, vous le savez bien, à Paris, au théâtre de la Huchette, on fête 60 ans depuis que la cantatrice Chauve et la Leçon sont jouées chaque jour. Depuis 60 ans, il y a eu 18 000 représentations, plus que ça. Et j'ai fait un reportage au théâtre de la Huchette et j'ai demandé au directeur pourquoi le théâtre de l'absurde est encore important et actuel. Il s'appelle Franck Desmet. Il m'a dit, aujourd'hui, on n'ose plus rien dire. La pensée politiquement correcte est tellement forte qu'on parle sans rien dire. Voilà pourquoi, par exemple, le théâtre de l'absurde de Eugène Ionesco est d'une fraîcheur incroyable parce que c'est un théâtre qui montre pourquoi parfois même la pensée est bloquée, la langue est bloquée, les langages sont bloqués parce qu'on est formaté par le politiquement correct, par la peur de voir le monde. Alors, c'est la comédie de l'absurde qui commence.
Le politiquement correct, vous qui avez vécu le système autoritaire, etc., est-ce que finalement ce n'est pas même davantage paralysant que le propre système autoritaire?
Oui, pour moi c'est une nouvelle forme de dictature, une dictature de la pensée, mais aussi pour le monde politique, être politiquement correct, c'est une manière de ne pas agir. Parce que chaque fois qu'on ne voit pas la réalité, alors on n'est pas obligé d'agir. Alors on préfère être aveugle pour ne pas être obligé de proposer des solutions et d'agir. C'est pour ça que le monde politique aime la pensée politiquement correcte et pratique cette pensée politiquement correcte de l'aveuglement.
Le politiquement correct qui devient une véritable dictature selon l'écrivain Matej Wisniewski, interrogé par Iman Moinsard. Mais c'est vrai aussi hein, qu'on est dans l'absurde total en ce moment dans de nombreux pays, je dirais sur la planète entière, et que le politiquement correct est nocif parce que bien plus personne n'ose parler, on ne dit plus rien, on dit comme les autres pour pas sortir du lot et pour pas s'attirer des ennuis. Et ça, je crois que c'est la pire chose qui peut arriver quand on est en quête de démocratie et de liberté.
Absolument, parce que finalement, la liberté d'expression, c'est la démocratie, hein, effectivement. Mais c'est vrai que le politiquement correct, ça devient un problème quant au nom du politiquement correct, quant au nom de quelques régulations que ce soit, on tolère ou peut-être pire, on favorise le retour à des violences. Là, c'est dangereux, effectivement.
Mais qui ne dit rien consent.
Bien sûr, mais surtout quand le politiquement correct interdit un débat, c'est vraiment dangereux. On essaie de biaiser, par exemple, un débat, on interdit un débat, non pas pour protéger peut-être une minorité, mais plutôt pour aveugler peut-être une opinion publique sur une réalité. Là, c'est vrai, je partage l'avis que c'est dangereux, mais disons que toujours cette recherche de l'idéal de liberté, elle se fait sans cesse, mais cette liberté que l'on veuille ou non, finalement, dans tous les camps de notre planète, elle se fait toujours dans des champs de possibilités. Hein. Il y a toujours des limites, hein, si j'ose dire. Et là, on revient justement à cette question du politiquement correct. Donc, l'homme libre, il va toujours évoluer dans ce sens, je crois, avec des pensées qui vont servir ou desservir l'humanité, mais ce sont des actes qui se font dans un espace où il y aura toujours des limites.
Mais il faut qu'il y ait des propos qui dérangent un peu. Et là, on en manque un peu en ce moment. Là, on suit la campagne des élections présidentielles en France. Bon, ça va, mais tout est un peu tiède, quoi. Il n'y a pas de personne qui donne un sens différent, je dirais, à cette campagne. On est en train de s'observer un peu comme un chien de faïence et on essaie de ne pas dépasser des limites, on reste dans les bornes pour ne pas trop déranger et pour séduire les lecteurs. Et là, je pense que c'est nocif pour tout le monde. Et moi, je partage aussi cet avis de cet écrivain franco-roumain qui a connu aussi beaucoup de choses en Roumanie, hein, Matej Wisniewski, oui. Donc, avec cette belle interview que nous a offert Iman Moinsard. Alors, comment on va parler de l'Italie dans les deux reportages qui vont suivre, celui réalisé par Pierre-Louis Alessandre et par le tien, Mayada. Mais on va aller, une fois n'est pas coutume, écouter une chanson italienne avec une très belle voix, une des plus belles voix italiennes du moment. Elle s'appelle Giorgia et elle nous chante Oro Nero. C'est un extrait de son dernier album.
Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te. Che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una di me, una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo davvero, ma una carezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me, so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me, non sono più com'ero e questa sono io e loro sono oro nero. Oro nero, oro nero. Parlano di te, un uomo che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male. Devi sapere.
La merveilleuse, la divine voix de Giorgia qui nous a chanté Oro Nero, c'est un extrait de son dernier album. On va rester en Italie, donc avec un sujet qui concerne les régions corses, les régions françaises et les régions italiennes que nous a concocté Pierre-Louis Alessandri.
Absolument, ça concerne effectivement les inondations qui sont des phénomènes aux conséquences parfois dramatiques que de nombreux pays connaissent de plus en plus. Un programme européen, Proterina, a été conçu pour une meilleure gestion des risques et une meilleure protection des populations. Il concerne donc les régions italiennes de Ligurie, Sardaigne et Toscane et les régions françaises de Corse et de PACA. Pierre-Louis Alessandri.
C'est au total 6,5 millions de personnes qui sont concernées par ce programme européen qui a été déterminé pour la période 2014-2020 et financé à hauteur de près de 200 millions d'euros. Son but, mieux organiser la prévention et la gestion des risques en impliquant notamment les populations. Depuis quelques années, l'Italie comme la France ont connu des épisodes pluvieux et des inondations qui se sont soldés par des dégâts considérables et des victimes. Ça a été le cas en Corse au mois de décembre 2016, avec des dégâts innombrables et lourds au niveau urbain et environnemental. Quels sont donc les points communs et les différences entre ces régions ? Luca Ferralis, italien, chef de file du projet, répond.
Les points communs sont comment faire face aux inondations qui se passent sur nos territoires. D'un côté, nous pouvons le faire avec un renforcement des systèmes de prévision, de suivi, mais surtout, nous pouvons essayer de travailler sur ce que nous appelons la dernière mille, c'est-à-dire comment nous pouvons essayer de travailler avec les citoyens, les riverains, pour qu'ils mettent en œuvre des mesures qui font qu'ils ne vont pas risquer leur vie. Quelque part, nous devons aider les maires, les communautés locales, pour qu'elles mettent en place des actions, une série d'actions de prévention, pour qu'ils ne se trouvent pas en danger par la suite.
Le réchauffement climatique est souvent évoqué dans les causes qui provoquent ces inondations meurtrières. Mais on ne peut passer sous silence une urbanisation débridée avec des constructions dans des zones inondables et aussi l'entretien des cours d'eau qui est délaissé et qui favorise les crues. Serge Calandini, de l'Office de l'environnement de la Corse.
On peut avoir différents cas d'inondation. On peut avoir des phénomènes d'inondation qui sont dus à des phénomènes de débordement du cours d'eau. Donc en fait, c'est le cours d'eau qui déborde de son lit et qui donc reprend ses zones d'expansion naturelle. Et puis après, on peut avoir des problèmes qui sont liés en fait à des ruissellements, au ruissellement urbain. Dans ces deux cas, on va cumuler effectivement du ruissellement, mais on va aussi surtout avoir un phénomène de débordement du cours d'eau au moment de sa crue. On est plus sur des travaux urbains, de remise en état de réseau, etc. Alors nous, au niveau de l'Office de l'environnement, de par nos compétences, alors on peut intervenir et on a la possibilité en fait d'intervenir sur ces deux domaines. Alors le premier domaine sur les phénomènes de débordement, c'est essentiellement par le fait qu'on va essayer de travailler, et c'est ce qu'on va apporter dans ce cadre du projet, on va essayer de travailler avec les riverains, donc les riverains qui peuvent être à la fois et des communes et des privés, pour essayer de faire de la sensibilisation et de l'information et expliquer aux gens qu'en fait, en termes de prévention, il y a justement cet entretien des cours d'eau. Donc réexpliquer un petit peu aux gens quels sont leurs devoirs et leurs obligations, et puis aussi leur apporter des manuels techniques qui leur permettront à un moment donné de pouvoir intervenir, surtout au niveau des collectivités, parce que bien souvent les collectivités en fait reprennent la compétence auprès des privés et en fait entretiennent les cours d'eau. Alors ça se fait par des plans d'action, et où effectivement il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites sur les cours d'eau justement pour essayer de redonner une fonctionnalité naturelle aux cours d'eau. Dans ce programme, nous, ce qu'on recherche, c'est essentiellement de l'échange d'expérience avec nos autres partenaires et savoir un petit peu justement comment eux arrivent à gérer ce volet plutôt environnemental de la gestion des risques d'inondation.
Ces régions cultivent-elles les mêmes motivations? Comment ce programme européen Proterina pourrait-il être efficace avec ce partage des expériences? Luca Ferralis.
Le défi est d'impliquer les riverains, les habitants. Donc l'équipe ne s'arrête pas là. Ça doit être une équipe qui inclut, qui implique également les riverains, car ils peuvent introduire dans le projet leur savoir de personnes non informées, justement pour augmenter nos connaissances des risques. De l'autre côté, également pour que le risque soit mieux perçu par tous les riverains. Donc l'idée, c'est d'impliquer les riverains. Donc nous voulons augmenter la résilience, c'est-à-dire le fait de pouvoir vivre avec les risques. Effectivement, le logo du projet est un parapluie comme un outil de protection de la population, un outil d'autoprotection des risques. Nous vivons dans un territoire à risque et afin d'être efficace, nous avons besoin que les citoyens participent au même chemin. Pour nous, les Italiens, la France peut par exemple nous apprendre tous les outils de participation en situation urbaine et tous ces outils peuvent être transposés donc sur les thèmes de la protection civile.
La confrontation des expériences et leur mise en œuvre quand elles apparaissent efficaces semble être effectivement une des solutions à une bonne gestion des risques et de la prévention.
La confrontation des expériences est une des solutions, mais c'est une des solutions dans tous les domaines. Confronter son expérience dans le domaine des inondations, mais dans la vie au quotidien, dans la vie entre les relations entre les gens, entre les communautés, entre les pays, il faut confronter ses expériences. Et c'est vrai que les inondations, et on l'a vu, on a une pensée aussi, parce qu'on est en Méditerranée, mais on a une pensée aussi pour ce peuple péruvien qui a été là vraiment touché par ces inondations et ces catastrophes naturelles. Et c'est vrai que souvent, des constructions humaines faites par l'homme, provoquent un peu plus, ou en tout cas amplifient ces inondations, parce que avant, il y avait un écoulement naturel de ces eaux, notamment les eaux pluviales. Et maintenant, on construit des routes, on construit des murs. C'est dévié, et bien entendu, ça fait d'énormes dégâts. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut confronter les expériences pour trouver ces solutions.
Confronter les expériences, certes, oui. Échanger les expertises aussi, c'est très important, du nord au sud ou du sud au nord. Et c'est vrai, ce problème d'inondation, il concerne aujourd'hui pratiquement tous les pays. C'est peut-être l'effet du réchauffement climatique qui se fait sentir. Oui. D'ailleurs, on l'a entendu dans ce reportage. Ce qu'on croyait loin ou dans 100 ans, on le vit aujourd'hui. Il pleut et il neige désormais là où il n'a jamais neigé. Les inondations sont de plus en plus fréquentes. Tunis, par exemple, est sous l'eau à chaque fois qu'il pleut. Parfois, le Grand Tunis est carrément paralysé à chaque fois qu'il pleut à l'intérieur du pays. Alors, les populations souffrent aussi. Il y a même parfois, malheureusement, des décès. Donc, il y a un problème, effectivement, d'infrastructure, je dirais, peut-être nécessaire à l'évacuation des eaux. Comme tu dis, Thomas, on construit des routes, on agrandit les villes, mais l'infrastructure nécessaire à l'évacuation de l'eau de pluie ne suit pas ce développement urbain. Donc, il faut vraiment... C'est un gros problème. mais il faut une solution, effectivement.
Allez, on va rester un peu dans, non pas dans ce domaine-là, mais dans cette région-là, avec le reportage que tu nous as choisi. Mais avant, tu nous as choisi une chanson qui colle complètement aux propos que tu as tenus après avec les relations entre la Tunisie et l'Italie. Et tu nous invites à faire un petit tour dans ce coin merveilleux de Tunisie, et pas loin de Tunis, qui s'appelle La Goulette.
Absolument, c'est la bande originale d'un film qui a été tourné à La Goulette et qui raconte le vivre ensemble en fait dans cette banlieue de Tunis. Le film s'appelle Anita à La Goulette et la chanson est chantée par Lotfi Bouchnak.
في قلبي غنى يتعشق وانا ومم العين نرمي لك بوسة يا عروسة بسرقة على عباد ما احنا هيام تشبه لمنا من كل جناس غني معفقين نبدأ لمنا متجيام والدنيا قلب كبير ماذا بي ماذا بي خبي صغري بين يدي انا صغري كيل عصافر على الغفلة يفرفط وطير ماذا بي ماذا بي نشوفك نغمض عيني يا حق الواد اسمك ديم على لساني مني وانا صغير انت اللي في شوارع قلبك يا حبة الملوك تعلمت نعنق الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها لقهي وعربي على صوت ام كلثوم شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك وإذا للت البنات وضحكتها كعبة لويس يميمتي الحنينة غزرت لي وتعدات هذاك حب عزيز ماذا بي ماذا بي خبي صغري بين يدي أنا صغري كل عصافر على الغفلة يفرفط ودير ماذا بي ماذا بي شوفك ينغمض عيني يا حلق الواد اسمك ديما على لساني خليني صغير
Nous étions à La Goulette avec la bande originale du film Un été à La Goulette et on y reste en Tunisie et également à La Goulette parce que la Méditerranée a depuis toujours vu des hommes, des femmes et des enfants se déplacer d'un pays à l'autre, souvent en empruntant les mêmes chemins avec les mêmes attentes et les mêmes espoirs d'une vie meilleure. Entre la Tunisie et l'Italie, le sens des trajectoires de ces migrations s'est inversé d'une époque à l'autre. Si on estime aujourd'hui autour de 100 000 le nombre de Tunisiens en Italie, il y a 150 ans, il y avait le même nombre d'Italiens en Tunisie. La plupart étaient d'origine sicilienne, exerçaient la profession de pêcheurs, tout comme les premiers migrants tunisiens qui ont exercé tout d'abord une profession similaire à Mazara del Vallo, qui est une ville de la province de Trapani. On écoute ton reportage, Mayada.
L'histoire des Italiens de Tunisie, qu'on appelle aussi les Italo-Tunisiens, a commencé au 19e et 20e siècle. Cela a commencé avec le vent d'opposition constitutionnaliste prônant l'unité de l'Italie, qui a poussé nombre de ses opposants à l'exil. Ils ont trouvé en partie refuge en Tunisie, mais aussi à Marseille, à Londres et Malte. La population italienne en Tunisie s'est agrandie ensuite grâce au traité de commerce et navigation en 1868 entre les deux pays. Un traité particulièrement favorable aux Italiens qui jouiront d'un statut privilégié jusqu'au traité du Bardo en 1881. Les troubles qui ont agité le sud de l'Italie suite à l'échec du grand rêve unitaire ont également accéléré la migration des Italiens originaires des îles et surtout de la Sicile vers le territoire tunisien. Alfonso Campisi, professeur de philologie italienne et romane, en parle dans son livre « Les migrations siciliennes en Tunisie entre le 19e et le 20e siècle » paru chez MC Éditions.
Il y a un livre qui est paru ça fait pas un an, qui était présenté d'ailleurs un peu partout, même aux États-Unis, en France, etc., parce que c'est un sujet qui attire et qui n'est pas trop connu ailleurs. Vous savez, on parle toujours des Siciliens qui sont partis en Amérique, en Argentine, etc., mais jamais, donc, on a les Siciliens, en fait, cette partie de l'histoire, partie donc en Afrique du Nord et en Tunisie particulièrement.
Les migrations de masse vers des contrées plus accueillantes au début du XXe siècle n'est donc pas celle qui animait ceux qui, au XIXe siècle, poursuivaient un rêve libératoire et patriotique.
Cette histoire, c'est une histoire fabuleuse. C'est l'histoire qui se répète. Donc on a eu de Sicile sont arrivés en Tunisie. On a eu la même chose de Tunisie vers la Sicile, vers l'Italie, et avec les mêmes histoires, donc l'arrivée en barque, avec les enfants, les gens qui arrivaient, qui ne parlaient pas la langue, qui cherchaient un boulot, qui étaient désespérés. Donc vraiment, l'histoire se répète.
Les Siciliens représentaient jusqu'à 70% de la communauté d'origine italienne et en fait des Italo-Tunisiens, l'ethnie d'origine européenne la plus importante. On comptait près de 100 000 Italiens dans les années années 20, plus de 50 000 en 1959 et moins de 10 000 en 1969. Contraint à l'exil au cours des années 50 et 60, lorsque le président Bourguiba ordonna la saisie des terres agricoles possédées par des étrangers, ils ne sont plus qu'environ 3 000 en 2003, dont à peine 900 descendent directement des immigrants du 19e siècle. Cette présence italienne en Tunisie a laissé de nombreuses traces, du dialecte, de la construction de rues et d'édifices au domaine de la littérature, du commerce ou encore de la gastronomie. De petites agglomérations comme la Goulette, à proximité de Tunis, ont été pratiquement intégralement construites par les Italo-Tunisiens. La Goulette, paradis jamais perdu. La Goulette, à 10 km au nord-est de Tunis, est emblématique de la présence italienne en Tunisie. Ces nouveaux arrivants étaient attirés par les opportunités de travail liées aux activités maritimes et portuaires. Le nom originel du quartier, la Goulette, est probablement donné par les Italiens avant d'être francisé en Goulette. En seulement quelques décennies, les Italiens sont devenus majoritaires au sein de la ville, donnant vie au quartier de la Petite Sicile. Ils y vivaient pacifiquement aux côtés de la population autochtone. Ce métissage est d'ailleurs immortalisé dans le film « Un été à la Goulette » de Farid Bourdir, dont on écoute un extrait musical.
Arabes, juifs, juifs et chrétiens, dans le train-train du TGV, vont tous ensemble au plaisir. Vers la seule plage que j'aime, la Goulette, la Goulette.
Il reste encore à la Goulette quelques vestiges du passé européen. Nous en citons l'église Saint-Augustin et Saint-Fidèle. Lieu d'attraction avec le pèlerinage à Notre-Dame de Trapani, le bâtiment a fait l'objet de travaux de réfection. Un peintre italien, Alberto Bogani, a donné à l'édifice une nouvelle décoration. Si aujourd'hui la collectivité historique est en voie d'extinction, un petit nombre d'entre eux a choisi de vivre et mourir sur ce sol tunisien où ils avaient vu le jour, tandis que d'autres Italiens sont soucieux de s'intégrer dans le tissu social, économique et culturel de la Tunisie contemporaine. À la fin du mois de février, la chaire Sicile Vincenzo Consolo pour le dialogue de culture et de religion a été inaugurée à Tunis par son épouse Caterina Consolo. Vincenzo était un grand passionné de la Méditerranée, de la Sicile et de la Tunisie. Le professeur Alfonso Campisi dirigera cette chaire.
Je pense une très belle chose qui arrive à la Sicile et à la Tunisie surtout. Parce que c'est une chaire que je désirais depuis très longtemps. J'y pense depuis très longtemps. Et je pense que c'est arrivé enfin le moment de la créer. Donc c'est une chaire dédiée à Vincenzo Consolo et à la Sicile. Donc Vincenzo Consolo c'était un des plus grands écrivains et hommes de lettres italiens, mais il était sicilien. Et cette chaire donc, a comme but le rapprochement de deux rives. Donc encore une fois, on retombe sur cette Méditerranée, sur cet espace commun qui doit nous unir et pas nous séparer.
Il reste aussi pour maintenir un lien avec la Tunisie, terre natale de beaucoup d'exilés, Il Corriere di Tunisi, périodique né en 1956 et diffusé outre-mer auprès de la diaspora de la Goulette, dont la plus célèbre représentante est l'actrice Claudia Cardinale, qui a pris la route du succès après son élection en 1957 comme la plus belle italienne de Tunis.
Ah, Mayada, si tu nous parles de Claudia Cardinale qui est à la Goulette, c'est sûr que tu vas séduire beaucoup d'hommes. C'est vrai que c'est Claudia Cardinale, ça représente quand même quelque chose. Mais le fait de parler de ce coin, de la Goulette, on a envie d'y aller, hein, Mayada.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un coin paradisiaque, je dirais, et qui garde toujours cette empreinte, ce métissage culturel entre les peuples, entre les gens de différentes cultures. C'est vrai qu'il y a de moins en moins peut-être de ressortissants d'origine européenne à Tunis, à la Goulette et dans les banlieues, mais il y en a toujours et j'aime bien ce mélange, si je peux dire. J'ai parlé de la Goulette dans ce reportage, mais il n'y a pas que la Goulette, Lafayette aussi, par exemple, de là où je vous parle à l'instant, là où il y a l'établissement de la Radio Nationale, c'est aussi une région de Tunis qui a connu ce vivre ensemble. Et si tu veux, les Tunisiens aujourd'hui, ils ont cette nostalgie, Thomas, de Tunis, des années 20, 30, 40, 50... où les Tunisois vivaient dans le même... Moi, j'ai même les souvenirs de mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, qui vivaient ensemble avec les Français, les Siciliens, les Maltais.
Quelle richesse.
C'était une très, très belle époque. Ouais,
justement, j'ai une question sur ce sujet-là, Mayada. En 1920, donc, il y avait 100 000 Italiens qui vivaient en Tunisie, qui ensuite sont partis dans les années 50, je crois, à peu près. Enfin,
Après
l'indépendance. Est-ce qu'on peut comparer l'histoire de ces Italiens de Tunisie aux pieds noirs français qui vivaient en Algérie.
C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble parce que même en Tunisie, il y a beaucoup de Français qui sont restés aussi. Les histoires se ressemblent, mais si tu veux, les raisons, si je peux dire, des départs n'étaient pas pareilles. D'ailleurs, on le disait dans ce reportage, les Italiens qui sont arrivés, c'est vrai qu'il y a eu des accords et des partenariats entre la Tunisie et l'Italie qui ont favorisé l'arrivée des Italiens. Il y a eu de la construction des écoles, des banques, des journaux et tout, jusqu'au traité du Bardo, donc jusqu'à l'instauration du protectorat français. Et c'est là où les Italiens étaient un petit peu gênés quand les Français ont commencé à s'installer en Tunisie. Et puis après l'indépendance, alors c'était une petite déception aussi pour les Italiens, parce qu'ils étaient, si je peux dire, du côté tunisien. Et après l'indépendance, ils ont été considérés comme les colons. Donc ça c'était un petit peu frustrant et c'était un peu vexant même, hein, je dirais, pour ces Italiens de Tunisie.
Et puis, ironie de l'histoire, hein, si, comme tu le dis dans ce reportage, l'immigration était dans un sens, c'est-à-dire nord-sud, hein, Italie, Sicile, vers la Tunisie, aujourd'hui, eh bien, on voit ce phénomène s'inverser avec ces migrations du sud vers le nord et avec les drames que ça a entraîné en Méditerranée.
Oui. Je veux dire, l'histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date depuis l'Antiquité. C'est Rome et Carthage, hein. Pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a toujours été, c'est vraiment une histoire très, très riche et très fascinante. Et les dominations s'inversaient. Parfois, c'était Carthage qui était la puissance mondiale. Et puis, ensuite, c'est Rome. Et ensuite, ça redevient Carthage. Et puis, il y a eu les guerres puniques jusqu'à ce que Carthage ait été brûlé par Rome. Si tu veux, vraiment, les Tunisiens aujourd'hui sont éblouis par cette... Il y a toujours un attachement, je dirais, entre l'Italie et la Tunisie. Et on est content aussi que, comme on le dit dans ce reportage, il y a toujours cette communauté, certes moins importante que dans les années 20 et 30, mais cette communauté présente. Italienne, elle existe toujours. Ouais.
Très bien. Et puis, il ne faut pas oublier que RTCI émet aussi en italien.
Absolument.
Voilà, il faut le dire.
Et c'est une langue qui est parlée aussi en Italie.
Absolument.
En Tunisie.
Ouais. Allez, à l'occasion de l'arrivée du printemps, Dina nous propose une chanson que tu nous présentes, Mayada.
Oui, alors c'est une chanson qui a pour titre Halew et Chamsena, notre beau soleil, une chanson de la troupe Rida, une troupe de danse folklorique égyptienne.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
Voilà, nous étions en Égypte avec cette troupe de danse folklorique égyptienne. On va y rester avec Dina Abdelmedjid, qui est la reine des nouvelles technologies ici à Alcantara et qui nous fait un peu la publicité d'une application dont elle se sert énormément, n'est-ce pas Mayada?
Absolument, l'application WhatsApp qui permet d'appeler et d'échanger des photos et des messages écrits ou vocaux de façon instantanée et gratuite via Internet. Chaque utilisateur peut communiquer avec tous ses contacts à partir du moment où ils ont installé l'application sur leur smartphone. Lancée en 2009, cette application a franchi la barre d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde et ce nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour. Qu'en est-il en Égypte ? Reportage de Dina Abdelmajid.
WhatsApp est une application de messagerie instantanée devenue l'outil favori et quasi indispensable de tous les utilisateurs de smartphones. Envoyer des messages à travers WhatsApp est le moyen le plus facile pour transmettre gratuitement un texte, une vidéo, un clip audio ou des images. Il suffit seulement d'avoir accès à Internet. Tôt le matin ou tard le soir, au travail ou à la maison, en voiture ou à pied, tout le monde ne quitte pas des yeux l'écran de son téléphone portable. Il suffit d'un simple clic sur la petite icône verte pour être au courant de tout ce qui se passe autour de soi. L'Égypte ne fait donc pas exception et WhatsApp est devenu un élément qui fait désormais partie du quotidien d'un grand nombre d'Égyptiens.
Oui, je l'utilise, oui, sûrement. J'utilise d'autres moyens, hein, d'accord. Il y a par exemple le Facebook, les textos, puisque voilà, je suis toujours dans le travail, d'accord, et même le WhatsApp, pour des raisons professionnelles.
Cette application ne ressemble ni à Facebook, ni aux autres services de messagerie, comme le SMS ou l'email. Avec WhatsApp, tout est plus rapide et plus simple d'utilisation.
Bien sûr, d'abord, c'est très facile à communiquer avec les autres. Autre chose, pour le travail, au lieu de téléphoner, de contacter quelqu'un, c'est facile d'utiliser le WhatsApp. Plus que le mail. Même avec les amis, avec la famille, je l'utilise. C'est toujours le WhatsApp.
C'est vrai que le WhatsApp a facilité la vie des gens. Il permet de joindre la famille à n'importe quel moment de la journée. Les utilisateurs aguerris utilisent aussi cette plateforme de communication pour créer des groupes de discussion portant sur différents thèmes et rassemblent des personnes intéressées par les mêmes sujets. Il y a par exemple le groupe WhatsApp dédié aux collègues de travail, un autre pour les amis du club de sport, et un troisième pour les amis intimes, ou encore la famille.
Oui, je l'utilise. Au moins 7 à 8 groupes. De l'école, la famille, les collègues... et d'autres groupes.
Vous trouvez que c'est un moyen très facile à communiquer?
C'est facile à communiquer. À des moments, ça me fait plaisir de l'utiliser, mais à des moments, vraiment, j'en ai marre. Parce que je prends beaucoup de temps à supprimer les messages. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est encombrant. Mais je n'arrive pas à m'en passer.
Une plateforme intéressante et pratique, mais qui peut aussi provoquer du stress. De courtes alertes sonores se succèdent annonçant l'arrivée de nouveaux messages. On voit défiler les messages auxquels il faut répondre tout de suite. Sinon, il faut s'attendre à des reproches. L'application indique à l'émetteur si son destinataire a lu le message ou non. Personne ne peut donc prétendre qu'il n'a pas vu ou lu le message en question et ne pas répondre. Peut-être considéré comme un manque de respect. Les gens ont tendance aujourd'hui à utiliser les icônes proposées par l'application pour exprimer leur joie, leurs sentiments ou leurs condoléances, oubliant l'importance de la chaleur humaine, du contact direct et de la présence physique.
On ne peut pas vivre sans le WhatsApp maintenant.
Pourquoi ?
En fait, personnellement, moi j'aime beaucoup chatter. Et avec les émoticônes aussi, ça me plaît beaucoup.
Mais il y a des gens aussi qui restent toujours réticents pour l'utilisation du WhatsApp.
Non, je ne l'ai jamais utilisé. On m'a demandé, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous avez le téléphone, vous avez mon mail, vous avez des textos. Il y a beaucoup de moyens de me contacter. Jamais WhatsApp.
Cette invention provenant de la Silicon Valley aux États-Unis a même commencé à être utilisée par des organes étatiques. Le ministère de l'Intérieur a par exemple créé un numéro spécial qui permet de recevoir les plaintes des citoyens à travers WhatsApp. Certains ministères et municipalités ont également commencé à diffuser aux citoyens certaines informations pratiques en utilisant WhatsApp. Des médecins, des professeurs et des coiffeurs communiquent aussi avec leurs clients à travers des messages WhatsApp. C'est gratuit, rapide et sûr. Tellement d'informations et de décisions se font désormais sur WhatsApp que l'on devient volontairement dépendant de nos téléphones et de cette application.
Notre Tina Belmégouide qui nous a fait l'article et la publicité de cette appli, en tout cas il y en a d'autres, hein. Il faut signaler qu'il y a Skype, enfin qu'il y en a d'autres, on ne va pas non plus tomber sous le coup de la publicité clandestine. Mais c'est vrai que c'est un phénomène quand même, non seulement WhatsApp, mais cette manière de communiquer maintenant par clavier interposé, en tout cas par touche interposée, ça a complètement bouleversé, je dirais, les habitudes des uns et des autres, à en devenir complètement addict. Là aussi, c'est des grands dangers. C'est vrai que ça facilite la vie, mais ça crée aussi des dangers supplémentaires.
Absolument, ça engendre beaucoup de stress aussi, hein, parce que on est connecté, on est en ligne pendant 24 heures sur 24, donc on n'a plus un temps pour soi. Mais ce qui est surprenant, je dirais, cette vitesse avec laquelle évoluent ces réseaux sociaux et toutes ces applications. Aujourd'hui, comme on l'a entendu dans ce reportage, ce sont des grandes institutions, ce sont de grandes organisations et ce sont les ministères qui se mettent sur les réseaux sociaux. C'est dire aujourd'hui à quel point ça devient indispensable.
Nous, on va parler de culture maintenant, comme chaque semaine, notre agenda culturel. Et on commence par le Maroc, Mayada.
On commence par le Maroc. Du 7 au 17 avril, une course à pied qui suit un parcours de 240 km dans les sables du désert. 600 sportifs, dont les frères Hansali, se lancent dans ce périple exigeant en autosuffisance alimentaire avec leur équipement sur le dos. Chaque jour, 9 litres d'eau et une tente pour bivouaquer leur sont fournis. À cette époque de l'année, la température dans le sud marocain dépasse en effet les 40 degrés Celsius. Le Marathon des Sables a aussi une dimension humaine. Il soutient des projets caritatifs, Maison des Enfants soutient aux femmes en difficulté, soit aux populations défavorisées.
14e festival égyptien scolaire du théâtre international francophone du 23 au 27 avril. Cette grande manifestation culturelle née en 2002 voit défiler sur scène une quinzaine de pièces de théâtre avec en marge des ateliers de pratique théâtrale, de sorties libres, mais aussi une soirée dansante. Elle rassemble au Caire quelques 250 jeunes représentant une douzaine de lycées égyptiens venus des quatre coins du pays, ainsi que des jeunes de France pour une semaine de pratique théâtrale. Ce rendez-vous fait partie du grand tour qui se déroulera au long de l'année 2007 avec une centaine d'étapes sur 5 continents. Les activités vont de la danse à la photographie en passant par la musique urbaine et la gastronomie, le jazz et le cinéma pour faire de l'année 2017 une célébration globale de la francophonie dans une modernité inattendue.
La 4e édition de Jaou Tunis aura lieu du 13 au 16 mai. Lancé en 2013, ce concept réunit des artistes, des collectionneurs, des galeristes, des universitaires, des spécialistes de l'art autour d'expositions, de conférences et de tables rondes portant sur la culture et l'art contemporain. Plusieurs galeries d'art s'associent à l'événement en proposant des expositions organisées à cette occasion. Cette nouvelle édition entend explorer le phénomène migratoire en Méditerranée. Cette question sera abordée au sens large du terme, qu'elle soit volontaire ou forcée, économique ou politique, formelle ou clandestine, autant de problématiques qui seront présentes dans les productions artistiques et culturelles de nombreux artistes et intellectuels de la région.
Malaga vit ses jours au rythme du cinéma, de langue espagnole. La ville méditerranéenne qui a connu une véritable mue ces dernières années en devenant la 5e ville d'Espagne en termes d'offres culturelles accueille donc le 20e festival de cinéma.
Le 7 avril à 20h30 à la Chénine à Ajaccio, The Corsica Sound, cette bande d'amis expérimente le rock corse depuis 20 ans avec la création ou la reprise de morceaux traditionnels en électrique. Le concept casser les codes de la chanson corse.
Voilà, c'est la fin de ce Cantara à Ajaccio. Cette émission était réalisée par Stéphane Casalong.
Et à Tunis par Nawel Saidi.
Alors rappel, Mayada, que Cantara est une coopération avec Algéchaîne 3, France Bleu RCFM, chaîne Inter Rabat, Radio Tunis, chaîne internationale, Radio Le Caire, Radio Estadol d'Espagne. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre page Facebook pour retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter votre Cantara. Voilà, c'est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir Mayada, à la semaine prochaine.
Au revoir Thomas, merci, à la semaine prochaine.